Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Nous sommes dans les locaux de l'artisterie à Fontaine. L'objectif de cette matinée est de questionner, comprendre mieux certaines facettes des conditions d'accueil des personnes d'origine étrangère arrivant en France, quelles que soient les raisons de leur arrivée, quel que soit leur statut. Nous nous intéresserons en particulier à la langue et aux langues parlées de part et d'autre. Le mois dernier, La Voix des gens s'est rendue à plusieurs reprises dans des cours de langue française appelés « actions sociolinguistiques » que nous résumerons parfois au cours de l'émission par son acronyme ASL. Ces ateliers radiophoniques ont été l'occasion d'enregistrer des impressions, des expériences, des rencontres, dont vous pourrez entendre quelques extraits ce matin, et enfin de préparer l'émission de ce mardi 19 décembre. Merci aux bénévoles, formatrices, coordinatrices, qui nous ont soutenus et ouvert leurs portes. Nous les présenterons plus en détail dans quelques minutes. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que plusieurs des participants aux ateliers radiophoniques sont ici pour se prêter au jeu de l'interview avec nos invités, que je vais vous présenter. Lisa Leget, conseillère pédagogique, et Isabelle Kraft, coordinatrice du Centre Ressources Illettrisme de l'Isère, donc le Centre Ressources IRIS. Bonjour. Nous nous entretiendrons avec les représentants des actions sociolinguistiques grenobloises, parmi lesquelles les ASL de la Maison des habitants du quartier Abbaye-Jouhaud, la Maison des habitants du quartier Chaurier-Beria et l'association AMAL. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Elias Bouanani, juriste à l'ODTI, Observatoire des discriminations et des territoires interculturels. Et enfin, la Maison de la Poésie de Saint-Martin-d'Hères, représentée par son président, directeur, Pierre Vieuguet, et Abdelhamid Larouati, poète. Nous souhaitons également la bienvenue à toutes les personnes apprenant le français en ASL, venues aujourd'hui sur notre plateau. Elles se présenteront au fur et à mesure de leurs interventions dans l'émission. Merci à tous d'être venus. Pour commencer, nous allons nous tourner vers le Centre Ressources IRIS. Alors, Lisa Leget et Isabelle Kraft, bonjour. Vous représentez toutes les deux le Centre Ressources IRIS, un centre de lutte contre l'illettrisme en Isère. Lisa Leget, vous êtes conseillère pédagogique. Isabelle Kraft, vous êtes la coordinatrice. Merci de vous être déplacée aujourd'hui sur ce plateau. Alors, je vais vous lire un petit extrait d'un texte qu'on peut trouver sur le site internet du gouvernement et ça va faire office d'entrée en matière pour notre discussion. Si vous entrez en France pour occuper un emploi salarié et vous installer durablement, vous devez connaître le français ou vous engager à l'apprendre. Dans le cadre de la signature de votre contrat d'intégration républicaine, vous passez un test de connaissances orales et écrite en langue française, organisée par l'OFI. L'OFI, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En fonction du résultat obtenu à ce test, vous bénéficierez d'une formation linguistique ou en serez dispensé. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir si les actions sociolinguistiques font partie du parcours qui peut permettre à des personnes d'avoir les conditions nécessaires à obtenir une résidence durable sur le territoire.
Alors, pas tout à fait. En fait, l'extrait de texte que vous avez lu, ça concerne toutes les personnes qui ne sont pas ressortissantes de l'Union européenne et qui sont arrivées en France depuis moins de 5 ans. Or, dans les actions sociolinguistiques, on trouve également plus de la moitié des personnes qui ne relèvent pas de ce statut. Donc voilà, ça ne concerne pas forcément ces personnes-là. En réalité, pour une personne donc, qui est concernée par ce texte, elle bénéficie dans ce cas d'un ce qu'on appelle un parcours linguistique de 200 heures. Elle bénéficie de 200 heures maximum de français avant éventuellement d'intégrer des actions sociolinguistiques.
Donc c'est un parcours qui est dispensé par l'OFI, c'est ça ?
Tout à fait, ou par des organismes de formation qui sont payé par l'OFI.
D'accord. Zara, bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être venue, Zara.
Merci à vous.
Il me semble que tu avais préparé une question pour Lisa Leget. Alors, je vais te laisser poser la question. Donc, Zara, je précise que tu viens du groupe de la Maison des Habitants Chaurier-Berria.
Oui.
Voilà, je te laisse la parole.
Merci. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que vous pouvez nous décrire la démarche AACL?
Bonjour Zara, bonjour à tous. Alors je vais essayer de la décrire en quelques mots. Alors la démarche AACL, c'est une démarche pédagogique qui vise l'autonomie sociale des apprenants et pour certains d'entre eux également l'insertion professionnelle. Donc on s'adresse à des personnes adultes qui sont non francophones et qui ont eu un parcours scolaire ou non dans leur pays d'origine. Et on va travailler avec ces personnes pour les accompagner dans leur capacité à agir dans les espaces sociaux. Alors, quand je parle de capacité à agir, ça veut dire comprendre les codes sociaux attendus dans ces espaces, pouvoir agir dans ces espaces, c'est-à-dire communiquer dans l'espace avec un interlocuteur, donc par rapport à une situation donnée, trouver le bon service et le bon interlocuteur, me faire comprendre de cet interlocuteur et de comprendre aussi ce qu'il me dit. Donc on va beaucoup travailler sur la communication en français. Et on va s'intéresser à nos apprenants en s'intéressant à leurs besoins immédiats dans le quotidien en France, c'est-à-dire que nos apprenants sont des adultes qui sont aussi parfois parents, parfois demandeurs d'emploi, parfois allocataires, CAF, parfois toujours en tout cas résidents d'un quartier. Donc on va vraiment travailler avec eux sur leurs besoins quotidiens et on va les accompagner pour pouvoir mieux communiquer dans ce quotidien, pour être en capacité de faire seul, en tout cas de plus en plus seul. Et ne pas avoir à faire appel à l'aide d'un tiers pour réaliser telle ou telle démarche, ou tout simplement avoir une vie dans ce quartier, dans cette ville, dans ce pays. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit. Alors, l'intérêt aussi de cette démarche pédagogique, c'est d'essayer dans nos contenus pédagogiques, dans nos séances, de justement comprendre les membres qui font partie du groupe, de l'atelier sociolinguistique, et donc de créer des supports pédagogiques, des contenus pédagogiques qui répondent vraiment aux besoins de chacune des personnes du groupe, tout en favorisant cette dynamique de groupe. Voilà. Et donc pour ça, on va aussi travailler en séance dans la structure qui anime les ASL, mais aussi dans le quartier, on va aller rencontrer des services de proximité, des professionnels, on va faire des choses à l'extérieur, on va vraiment se servir des espaces sociaux comme support d'apprentissage.
Merci.
Merci, on a trouvé la réponse. Merci.
J'ai une autre question qui vient de Yagan. Yagan, tu te souviens, cette question à propos des cours de français?
Bonjour, je m'appelle Yagan, je suis syrien. Je suis réfugié en France depuis il y a un an, 6 mois presque. J'ai un problème avec Pôle emploi pour apprendre des cours de français parce que ce n'est pas obligatoire. Je dois apprendre le français moi-même sur Internet. Je demandais une fois, deux fois, trois fois Pôle emploi pour apprendre français, cours de français. Formation pour formation ou quelque chose comme ça. Pôle emploi envoyait moi à l'escale. L'escale, elle m'a dit nos besoins 18 personnes et il y a 50 personnes refusées. L'escale refusait moi. Une autre fois, Pôle emploi envoyait moi aussi à l'escale 3 fois, totalement 3 fois. L'escale refusait moi parce que je ne parle pas bien français. Je demandais pour parler bien français parce que j'ai besoin de temps, j'ai besoin de cours, j'ai besoin de formation. Je demandais. Pôle emploi, avant un mois, il m'a dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer pour l'institut pour apprendre français. Cet français que vous entendez, je apprends moi-même sur Internet. C'est ça. Pourquoi la langue pas obligatoire pour réfugiés ici? C'est mon question. Merci. Désolé parce que je parle un peu de français. Désolé.
Merci, on a tout compris. Merci, Yagan. Est-ce que vous avez des éléments de réponse?
C'est une question très politique et moi je ne suis pas une politique, donc j'aurais du mal à vous répondre. En tout cas, c'est sûr qu'il existe, il a existé jusqu'à là, la fin de l'année, un dispositif de formation proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Compétences Premières. Je pense que c'est ça que vous avez voulu intégrer.
C'est la fameuse formation proposée par Escale, c'est ça ?
Par Escale et par d'autres organismes de formation, l'IFRA, le GRETA, selon. En fait, c'est intéressant, cette formation, ça permet effectivement d'acquérir plus de pratiques en langue française, à l'écrit, à l'oral, et en même temps de réfléchir à un futur emploi et à un futur métier, ou de se reconvertir parce qu'on ne peut pas forcément faire le métier qu'on faisait dans son pays d'origine. Il y avait tellement de demandes, c'est un programme qui a duré presque 3 ans. Pour vous donner une idée, il y avait 150 personnes qui voulaient s'inscrire pour parfois 15 places. Voilà. Donc on est bien conscient, enfin moi je suis bien consciente qu'il n'y a pas assez d'offres qui est proposée. Mais on attend maintenant la réponse du nouveau gouvernement pour voir un petit peu ce qu'ils vont proposer. C'est une réponse qui sans doute doit venir de l'État. Et jusqu'à présent, c'est vrai que pour des personnes comme vous qui, à mon avis, vous connaissez déjà bien le français, pour Pôle emploi, il juge que vous connaissez suffisamment le français et du coup, il réserve des places à des personnes qui connaissent beaucoup moins le français et notamment à l'écrit. Mais bon, on est d'accord, c'est pas une solution. Donc voilà, moi je suis comme vous, j'attends de voir ce que le gouvernement va proposer. En attendant, il y a quand même des possibilités parfois au compte-gouttes avec Pôle emploi d'obtenir ce qu'on appelle des actions individuelles de formation avec quelques heures de langue. Mais sinon, c'est vrai que ce qui est assez dramatique, c'est que soit vous avez la possibilité comme vous d'apprendre par vous-même parce que vous savez déjà utiliser Internet et donc vous arriverez à apprendre par vous-même. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui ne sait pas faire ça, là, il est coincé. Donc attendons et espérons qu'on ait des bonnes nouvelles en début d'année 2018.
D'accord. Est-ce que, Lisa Leger, vous pourriez nous décrire un peu plus la façon dont le centre ressources peut former les intervenants dans les actions sociolinguistiques, justement, quels sont les outils pédagogiques qui peuvent être proposés?
Donc, les actions sociolinguistiques sur le bassin grenoblois, elles sont vivantes, elles ont lieu dans les maisons des habitants et dans certaines associations. Alors, selon les équipes, selon les structures, on a donc des bénévoles qui vont animer les séances, des professionnels, des formateurs aussi, salariés qui vont animer ces séances. On a des personnes qui sont en poste sur la coordination des équipes, donc, et puis sur l'accueil aussi des apprenants, donc comprendre quels sont leurs besoins, leur proposer aussi un planning d'apprentissage avec des groupes spécifiques. Et puis donc on a des écrivains publics qui vont travailler là-dessus, des coordinateurs, voilà, sur l'animation de l'équipe bénévole et l'accueil des apprenants. Et puis nous, Centre Ressources Illettrisme, on est missionné pour proposer des outils de formation, pour outiller les personnes qui vont être en face-à-face pédagogique en proposant des formations thématiques. Donc les formations thématiques, il y en a plusieurs évidemment, et on va essayer de travailler sur la posture. Quelle est la posture d'un intervenant pédagogique par rapport à un apprenant adulte, comprendre les besoins de ces personnes adultes, comprendre comment on peut travailler une langue étrangère. Donc on va chercher des outils, des supports pour animer les séances et voir ce qui permet à nos apprenants de s'approprier en fait ces outils-là et de monter en compétences dans la communication en français. Donc on propose des ateliers thématiques sur des outils aussi sur la phonétique, comment mieux prononcer le français pour mieux me faire comprendre, comment utiliser le jeu dans nos séances parce que le support jeu peut favoriser les apprentissages. Voilà, donc on a tout un tas, on a un planning de formation annuel. Et on propose donc aux intervenants pédagogiques de tout le réseau, que ce soit des professionnels ou des bénévoles, de venir se former parce qu'on est convaincu du fait que toute personne qui est en face-à-face pédagogique se pose des questions et qu'on est tous en besoin d'échanger sur des outils qui fonctionnent, de se poser des bonnes questions sur ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, et donc de favoriser comme ça les échanges. Voilà.
D'accord.
Moi, je voudrais juste rajouter qu'il y a quand même pratiquement 300 intervenants hein, dans les actions sociolinguistiques, 250 bénévoles environ et une trentaine de salariés, et qu'il y a chaque année plus de 1600 personnes qui participent aux actions sociolinguistiques. Et là, on parle uniquement du bassin grenoblois. Et on parle uniquement des associations qui sont financées par l'État et par l'agglomération grenobloise. Donc on pourrait rajouter encore, à mon avis, au moins 300 ou 400 personnes. Donc ouais, ça fait beaucoup de monde. Et c'est aussi pour ça que c'est important, à mon avis, que ces équipes elles soient formées. Parce que on ne peut pas s'improviser en train d'apprendre à quelqu'un une langue. C'est pas si évident. Peut-être que vous l'avez testé vous-même. Quand on veut apprendre sa propre langue à quelqu'un, bah, on se dit mais c'est normal, c'est évident. Comment ça se fait? Non, y a, comme disait Lisa, il y a des outils et c'est, voilà, ça se travaille, ça s'apprend aussi.
Depuis quand en fait existe le centre ressources Iris?
Ça fait une vingtaine d'années.
D'accord. Et il a toujours été partie prenante des actions sociolinguistiques.
Oui, il a d'ailleurs été à l'origine en fait d'un travail d'animation et de réseau, de réseautage en fait des différentes structures qui proposaient à l'époque ce qu'on appelait les cours alpha, qui n'était pas forcément un bon terme. Et la ville de Grenoble, notamment, a demandé à l'époque au centre ressources illettrisme de créer un réseau pour harmoniser les différentes pratiques dans les structures et notamment former les équipes de bénévoles et de salariés.
D'accord. Je voulais quand même rappeler que quand même la plupart des personnes qui viennent dans ces ateliers ne sont pas illettrées, en fait, parce que la définition d'illettrisme, Isabelle...
Alors, l'illettrisme, c'est très franco-français, hein, l'illettrisme. Ça concerne uniquement des personnes francophones qui ont été scolarisés en langue française, et donc généralement en France, au moins jusqu'à l'âge de 16 ans, et qui malgré tout n'ont pas acquis les bases en communication orale et écrite en français, et surtout écrite. Donc on peut dire que ça ne concerne pas en réalité les personnes qui sont là dans la salle, hein, puisque la plupart des personnes ont été scolarisées dans leur pays, et en fait elles apprennent le français comme une langue étrangère, comme vous et moi on peut apprendre l'italien, l'espagnol, le chinois, etc.
C'est ça. D'accord. Je vous remercie. On va